émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et je suis toujours en compagnie de Julia Kristeva qui nous honore cette semaine de sa présence. Et je dois le dire, c'est non seulement un honneur, mais un bonheur de l'accueillir pour évoquer la figure et l'œuvre de Simone de Beauvoir, née il y a 100 ans, le 9 janvier 1908. Le 16 avril 1986, quand l'écrivain est morte, Elisabeth Badinter déclara « Femme, vous lui devez tout ». Elisabeth Badinter rendait ainsi hommage à l'auteur du deuxième sexe et célébrait l'écho que cette ses fondateurs allaient connaître dans le monde entier. Mais que reste-t-il de Simone de Beauvoir en 2008? Que reste-t-il de cet écrivain, victime de la consécration du nouveau roman et de la dévalorisation d'une littérature dite engagée, plus référentielle que poétique, qui n'a pas vraiment trouvé la place qui lui revient dans l'histoire littéraire de son époque? C'est à ces questions et à bien d'autres que vont répondre mercredi, jeudi et vendredi les participants au colloque international sur Simone de Beauvoir, organisé par l'Université Paris Diderot, le Centre Roland Barthes et la Simone de Beauvoir Society, un colloque présidé par Julia Kristeva et ouvert à tous. Lieu de la manifestation, 15 rue de l'École de médecine, dans le 6e arrondissement parisien, deux conditions seulement à remplir, s'inscrire sur le blog 2008beauvoir.blogspot.com et puis s'acquitter d'un droit d'entrée de 20 euros pour les 3 jours et de 10 euros si vous êtes étudiant. Julia Kristeva, en 2003, lors d'un colloque intitulé « De Beauvoir à Sartre et de Sartre à Beauvoir » et organisé par la Société internationale Simone de Beauvoir et le groupe d'études sartriennes, vous avez posé cette question « Quelle présence de Beauvoir aujourd'hui ?» Permettez-moi que je vous la retourne.
Écoutez, je crois que c'est une présence massive et en même temps, rien ne se répète à l'identique. Nous, on a dit tout à l'heure dans la première partie de notre émission combien la liberté qu'elle a proclamée des femmes a été une révolution sociale importante. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encore répéter parce qu'on l'oublie même dans les pays démocratiques, dans les démocraties occidentales avancées. Je ne suis pas sûre que les jeunes générations de nos étudiantes lisent aussi bien Beauvoir que nous le lisions. Et évidemment, il reste énormément à faire dans les pays du tiers-monde, et puis en voie de développement, pour que le sujet femme, comme dit Simone de Beauvoir, puisse avoir ses libertés. J'aimerais bien, à cet égard, citer la phrase qui, pour moi, résume le deuxième sexe et cette liberté, parce que vous allez voir, nous allons voir, et nos éditeurs vont l'entendre, combien on est loin de la réalisation de cette liberté sociale. Elle dit ceci, « Le drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout sujet, qui se pose toujours comme essentiel, et les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle. Dans la situation aujourd'hui, sociale, dans la démocratie avancée et dans les pays en voie de développement, la femme est toujours inessentielle. Donc il faudrait que le sujet femme essentiel soit reconnu. » Et je termine la citation, « Comment, dans la condition féminine, peut s'accomplir un être humain ?» C'est dire que, nous intéressant aux chances de l'individu, nous ne définirons pas ces chances en termes de bonheur, mais en termes de liberté. Donc la liberté des femmes voilées, les libertés de femmes qui se brûlent par le feu, les libertés de femmes excisées, les libertés de femmes qu'on marie de manière obligatoire, tout ça reste à conquérir. Alors reste cependant que l'actualité n'est pas que ça. Il y a eu le développement des biotechniques. Il y a eu l'acquisition du choix de la maternité. Et à partir de là, quelque chose que Beauvoir ne pouvait pas entrevoir, à savoir la liberté d'être mère, l'obligation et le bonheur, mais aussi le rôle civilisationnel de la maternité. Nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la vocation maternelle. Et c'est à nous, après Beauvoir, à conquérir cela. Et puis un deuxième point, mais qui est déjà chez Beauvoir, nous l'avons dit tout à l'heure, tout son raisonnement est fondé sur des individus exceptionnels. Donc c'est un appel aussi à ce que toutes les femmes ne se considèrent pas comme une masse, mais comme des individus créateurs. Et c'est la différence entre le mouvement féministe et tous les mouvements libertaires du XXe siècle, que ce soit le mouvement prolétaire ou le mouvement du tiers-monde. On voulait libérer toute la condition tous les ouvriers, tous les Arabes, tous les Chinois, tous les peuples dans leur appartenance et de communauté. Le féminisme, avec Simone de Beauvoir, mise sur la femme individu, la créativité de chaque femme. Et c'est un appel extraordinaire de quelque chose d'inouï, de l'aboutissement des droits de l'homme à travers la réalisation des créativités féminines.
Alors, qui était, bien sûr, on se pose toujours la question, hein, qui était vraiment Simone de Beauvoir, notamment dans l'intimité, si on peut dire, elle qui a beaucoup raconté, mais qui a aussi, elle le confesse, laissé résolument dans l'ombre beaucoup de choses. Eh bien, écoutez ce qu'en dit Claude Lanzmann.
Elle vous voyait Sartre, et Sartre la vous voyait, mais elle et moi, c'était le tutoiement. Ça a été immédiat. Elle était tout à fait extraordinaire. C'est la femme la plus loyale qui soit. La première nuit que nous avons passée ensemble, elle m'a dit, sans que je lui demande quoi que ce soit, il faut que tu saches, il y a eu tel homme, tel homme, tel homme, tel homme dans ma vie. Voilà, les doigts d'une main. Pas plus. J'étais quand même un très jeune homme, j'avais 27 ans. Et j'étais stupéfait par cette déclaration. Alors que je ne lui demandais rien, c'est une déclaration qui l'engageait et qui m'engageait. Elle croyait profondément à la vérité, elle croyait qu'on pouvait tout se dire, à la fois qu'on devait tout se dire et qu'on pouvait tout se dire. Elle voulait tout raconter tout de suite et qu'on lui raconte tout, tout de suite. Et tout ça était lié à une forme d'angoisse profonde. Je n'étais pas sûr d'avoir la clé.
Le témoignage de Claude Lanzmann, un extrait de l'excellent documentaire réalisé par Madame Dominique Gros et intitulé « Simone de Beauvoir, une femme actuelle », un film qui va passer jeudi le 10 janvier sur la chaîne de télévision Arte. Arte qui célèbre le centenaire de Simone de Beauvoir avec particulièrement de faste en publiant en un coffret dans la collection Monographie d'écrivains trois films sur l'auteur du deuxième sexe. Julia Kristeva, reconnaissez-vous comme Claude Lanzmann que Beauvoir était un curieux mélange d'angoisse et de goût de la vie?
Moi, je l'ai très peu rencontrée et j'étais sensible à cette voix très tendue qui traduisait pour moi aussi une grande inquiétude. Je vais simplement relever quelque chose qui me paraît très juste dans ce qu'il dit, à savoir qu'elle aime raconter la vérité. Elle l'a dit avec lui, elle a beaucoup raconté devant lui, elle écrit beaucoup de lettres, ses lettres sont des récits intarissables des moindres détails de la vie, elle marche dans la langue comme elle marche dans le monde, et ce récit perpétuel qui l'habite traduit une réalité et une vérité singulière.
Où est-elle?
Elle est romancière.
Justement, où est-elle la plus libre? Où est-elle, pour reprendre une vertu ô combien existentielle, la plus authentique? Parce que dans ses romans, dans ses essais, je vous pose la question, Julia Kristeva, parce que le castor se posait la question dès 1946 en confessant son intérêt égal pour la fiction et la réflexion. Voici par exemple ce qu'elle écrit dans Littérature et métaphysique. Le texte est paru dans Les temps modernes en avril 46. Après avoir pensé l'univers à travers Spinoza ou Kant, je me demandais pourquoi peut-on être assez futile pour écrire des romans. Mais lorsque je quittais Sorel ou Thèse d'Uberville, il me semblait vain de perdre son temps à fabriquer des systèmes. Où se situait la vérité? Sur la terre ou dans l'éternité? Je me sentais écartelé.
Je crois que on n'a pas suffisamment reconnu l'importance de la romancière. C'est vrai qu'elle n'a pas le style de Colette ou de Sagan, mais elle a réussi à incarner ses thèses dans des personnages et dans des intrigues avec une grande parcimonie, avec une grande justesse. Et c'est le triomphe de l'imaginaire, en fait, de la vérité imaginaire qu'elle installe dans la philosophie, c'est-à-dire l'imaginaire comme accès à la vérité. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une une manière de rendre le politique singulier et le singulier politique. Et aujourd'hui, lorsque le politique devient spectacle aux manipulations, c'est très important de voir comment cette femme a réussi à trouver les mots justes, que ce soit dans La femme rompue ou dans La force de l'âge ou dans La cérémonie des adieux, à raconter des moments durs, des moments tragiques, comme aussi des moments de gaieté à travers l'imaginaire. Et aussi dans les relations du couple. Parmi les témoignages qui vont rester, peut-être des hauts lieux de cette histoire qu'elle incarne de liberté. L'écriture romanesque et la possibilité de créer un couple à travers des conflits.
Alors, ce couple avec Sartre est évidemment un couple exceptionnel à tout point de vue. C'est le couple de l'exception permanente. Mais à la fois, on a l'impression qu'ils sont totalement différents, qu'ils se complètent parfaitement. Je voudrais en donner un exemple à nos auditeurs. Voici ce qu'elle écrit dans La force de l'âge. Le monde n'arrêtait pas de nous raconter des histoires, mais nous n'avions pas tout à fait la même manière de nous y intéresser. Je me perdais dans mes admirations, mes joies. Voilà le casteur qui entre en transe, disait Sartre. Lui, il gardait son sang-froid. Il essayait de traduire verbalement ce qu'il voyait. Il parlait du fleuve et des forêts beaucoup mieux que moi, mais il ne ressentait rien. C'est à la fois formidable et terrible pour Sartre.
Peut-être qu'elle sait de quoi elle parle, mais quand on lit La nausée, par exemple, on ne peut pas dire que Sartre ne ressent rien. Peut-être dans la réalité quotidienne, elle était beaucoup plus exaltée, beaucoup plus vibrante. Toujours est-il que c'est elle qui a continué à écrire des romans, alors que Sartre, après les mots, a décidé que le roman et tout ce qui est imaginaire relève de la névrose. Et il s'est vraiment focalisé sur l'écriture philosophique, alors qu'elle a continué jusqu'à la fin. Mais elle a réussi, à partir de cette différence qu'elle a perçue entre les deux, à créer du couple un lieu de pensée. Et c'est un exemple pour nous tous, parce que nous savons combien maintenant et les familles et les couples sont décomposés, recomposés, problématiques. Leur exemple est à renouveler. Comment faire de la vie à deux un lieu de pensée?
Julia Kristeva, quand Beauvoir et Sartre relèguent aux archives de l'histoire, à l'enfantillage et au mirage de la régression narcissique, alors l'amour fou, la passion, cette passion qui était si chère aux surréalistes ou aux mystiques, est-ce que vous, Julia Kristeva, est-ce que vous comprenez ça?
Ah oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que quelqu'un qui a pensé avec Hegel et Marx et les phénoménologues, quelqu'un qui a pensé aussi sa vie à travers Freud, ne peut pas vivre l'amour au degré naïf du romantisme ou du surréalisme. C'est un permanent recyclage, une permanente mise en question, une permanente sortie de l'illusion et retour à l'illusion. Moi, je dis ça dans mon langage, besoin de croire et besoin de savoir. Mais dans la relation amoureuse, c'est des mouvements permanents et eux, ils l'ont poursuivi au maximum.
Julia Kristeva, dans La force de l'âge, Simone de Beauvoir reconnaît que si Sartre vivait pour écrire, elle, il lui était enjoint de prêter sa conscience à la multiple splendeur de la vie et d'écrire afin de l'arracher au temps et au néant. Alors comme cette émission touche presque à sa fin, je voudrais que nous écoutions ce que déclarait Simone de Beauvoir à la fin de sa vie, quand on lui demandait si elle avait réussi sa vie.
Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie, finalement.
C'est exactement cela. Les promesses ont été tenues. Mais une promesse tenue n'est pas ce que l'on se promettait, parce qu'on vise toujours l'être, l'absolu, et qu'on n'a jamais qu'une existence relative. Au fond, c'est très simple. Je croyais quand j'étais jeune que j'avais une vie devant moi, mais une vie n'est jamais ni devant ni derrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qui passe.
Simone de Beauvoir jugeant sa vie, un extrait du film de Dominique Gros, Simone de Beauvoir, une femme actuelle, avec un extrait de Tout compte fait, lu par Marie-Armelle Deguy. Un commentaire ?
Elle dit qu'elle ne possède pas sa vie, ne pas l'avoir, mais elle reste dans l'ouvert de la vie et nous sommes les héritiers de cette ouverture. Je pense que c'est un hommage à la liberté qui est toujours en train de naître, jamais finie, une permanente éclosion. Et elle est l'exemple même de cette ouverture.
On ne sait pas toujours où vraiment classer Simone de Beauvoir. Alors elle a eu le Goncourt avec les Mandarins, mais on hésite à la reconnaître comme romancière, et vous l'avez dit, c'est sans doute un tort. Elle a une agrégation de philosophie, mais sans vraiment apparaître comme une philosophe. Alors il nous reste à dire que c'est une intellectuelle, mais c'est pas très bien de dire ça.
Je crois que c'est une chercheuse, une marcheuse, une chercheuse, et quelqu'un qui est dans un laboratoire permanent. Elle est dans l'interrogation. C'est quelqu'un qui, Sartre le disait tout à l'heure, curieux envers les autres et le monde. Elle a constamment cette palpitation qui pose des questions. Elle n'a pas la réponse du style fini, du joyau de l'écriture.
Elle est moins formelle, hein, par exemple, que Colette, que vous évoquiez un instant.
Ni Colette, ni le nouveau roman, c'est pas quelqu'un qui va produire une œuvre achevée. Elle ne veut rien posséder. Elle pose des questions, elle ouvre des brèches. Elle est quelqu'un qui est dans les curiosités et dans l'ouverture.
Christeva, que gardez-vous aujourd'hui de Simone de Beauvoir et que laissez-vous de côté si vous laissez quelque chose de côté?
Pour vous répondre, je vais prendre cette fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Je crois que avec le développement actuel des savoirs, on ne peut pas nier que nous naissons avec un bagage génétique. Donc on, l'acquis, l'héritage, nous l'avons. Ce n'est pas une essence philosophique, c'est une donnée biologique. Mais ce refus de l'héritage biologique et de la féminité, évidemment, je ne vais pas le prendre. C'est ce que je vais laisser de côté. Par contre, on le devient, je dirais je le deviens. Le devenir, le permanent devenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture, elle l'a montré. Elle est constamment dans ce mouvement de se créer soi-même. Et c'est une grande leçon pour les femmes. Vous pouvez vous créer, vous pouvez devenir. Soyez des êtres en créativité permanente. Ça, c'est une leçon et un exemple.
À une femme de 20 ans, aujourd'hui à une jeune fille, vous conseillez quel livre parmi tous les livres de Simone de Beauvoir?
Certainement le deuxième sexe.
Eh bien, Julia Kristeva, merci. Ce fut un honneur et un bonheur de vous recevoir pour évoquer la figure et l'œuvre de Simone de Beauvoir, née il y a 100 ans, le 9 janvier 1908. J'ose espérer que vous reviendrez bientôt, mais cette fois-ci pour parler de vous et de votre travail, car, faut-il le rappeler, vous êtes une de nos plus grandes intellectuelles et connue dans le monde entier. Je rappelle que vous allez présider mercredi, jeudi et vendredi prochain, autrement dit le 9, 10 et 11 janvier, un colloque international consacré à Simone de Beauvoir. Il va se tenir au réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l'École de médecine, dans le 6e arrondissement de la capitale. Participation aux frais, 20 € pour les 3 jours ou 10 si vous êtes étudiant. Inscription obligatoire sur le site 2008beauvoir.blogspot.com. Alors, beaucoup de choses viennent d'être publiées ou republiées à l'occasion de ce centenaire. Des livres, bien sûr, mais également des films, notamment par la chaîne de télévision Arte. Pour plus de détails, je vous renvoie à notre site rfi.fr. Ce numéro d'idées a été mis en onde par Thomas Ferrière et réalisé par Patricia Lecomte. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.
I had a woman living with back or down. Oh, she treated me right.